André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous reprenons le cycle des émissions sur l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt. Après Petits crimes conjugaux et Oscar et la Dame Rose, nous allons parler aujourd'hui de la pièce Variations énigmatiques, en compagnie de Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André.
Et Bernard Wynn. Bonjour Bernard.
Bonjour André.
Merci d'être avec nous. La pièce Variations énigmatiques se déroule dans le salon d'un célèbre pianiste dont le personnage principal, un homme âgé, est en proie à des réflexions sur son passé et sa carrière. L'intrigue débute avec l'arrivée d'un jeune homme mystérieux qui prétend être un ancien élève du pianiste. Ce dernier se présente avec une partition inédite, ce qui pique la curiosité du maître. Au fil de la conversation, le jeune homme s'avère être à la fois admirateur et rival. Le dialogue entre les deux personnages est chargé de tensions, de sous-entendus, de révélations. Le pianiste, en tant que mentor, remet en question le talent et les motivations de son interlocuteur, tandis que le jeune homme tente de percer les secrets de son ancien professeur. La pièce explore les thèmes tels que la passion pour l'art, la rivalité, l'identité, la quête de reconnaissance et les rapports complexes entre maître et élève. À travers leurs échanges, des vérités cachées, des jalousies et des regrets émergent, amenant le public à réfléchir sur les relations humaines et la nature de la création artistique. La pièce s'ouvre dans le bureau isolé d'Abdel Znorko, écrivain misanthrope et lauréat du prix Nobel, qui vit reclus sur une île norvégienne. Un soir, il reçoit Erik Larsen, présenté comme un journaliste devenu l'interviewer, au sujet de son dernier livre, « L'amour inavoué », qui prend la forme d'une longue correspondance entre Znorko et une femme mystérieuse, souvent appelée H ou Hélène dans les productions. L'accueil de Znorko est brutal. Il tire trois fois pour intimider, ce qui installe immédiatement une atmosphère de tension. Voici un premier extrait avec Philippe dans le rôle de Larsen et Bernard, celui de Znorko.
Vous venez de publier « L'amour inavoué », votre 21e livre. Il s'agit d'une correspondance amoureuse entre un homme et une femme. Cette passion est d'abord vécue sensuellement pendant quelques mois dans le plus grand bonheur. Puis, l'homme décide d'y mettre un terme. Il exige la séparation, une séparation de corps. Il demande que cette passion ne se vive plus, désormais, qu'à travers l'écriture. La femme, à contre-cœur, accepte. Ils s'écriront pendant des années, 15 ans je crois. Le livre est fait de cette sublime correspondance qui s'arrête d'ailleurs brusquement il y a quelques mois, l'hiver dernier, sans raison apparente.
J'étais fatigué d'écrire.
Vous avez créé une grande surprise avec ce roman. C'est la première fois que vous parlez d'amour. Votre terrain de prédilection est d'ordinaire le roman philosophique. Vous installez vos fictions sur des hauteurs habitées par l'esprit seul, loin de tout réalisme, dans un monde qui n'appartient qu'à vous. Et là, subitement, vous parlez d'une aventure presque ordinaire, quotidienne. L'affection d'un homme, un écrivain tout de même, et d'une femme, une histoire de chair et de sang où frémit le souffle de la vie. De la vie de tous, c'est votre plus beau livre, le plus sensible, le plus intime. Les critiques qui vous ont parfois malmené ont été très élogieux. C'est un concert de compliments.
Ah bon ?
Ah, vous ne lisez pas les journaux ?
Non.
Vous n'avez ni radio, ni télévision ?
Je ne tiens pas à être submergé de banalités. Ah ? Ils ont aimé ? Décidément, je ne comprendrai jamais rien à ces oiseaux-là. Eux non plus, d'ailleurs. Qu'ils louent ou qu'ils blâment, ils parlent et ne saisissent rien. 25 ans de malentendus avec la critique, c'est ce qu'on appelle une belle carrière.
Oui, mais qu'est-ce que cela vous fait de savoir que, de manière unanime, ce 21e livre est reconnu comme votre chef-d'œuvre ?
Cela me fait de la peine pour les autres livres.
Ben, on dirait que vous aimez vos livres comme des enfants.
Ce sont eux qui me font vivre. Je suis un père entretenu mais reconnaissant.
J'ai senti une amertume dans votre réaction. Vous avez tout le talent, les honneurs, le succès, et vous n'avez pas l'air heureux.
Ne nous égarons pas, reprenez.
Oui, alors, pouvez-vous nous parler de cette femme, Eva Larmor ?
Pardon ?
Cette correspondance est signée Abel Snorko Eva Larmor. J'ai quelques notions concernant votre vie, mais je ne sais rien d'elle. Parlez-nous d'Eva.
Mais cette femme n'existe pas.
Vous voulez dire que toute cette histoire est inventée?
Je suis un écrivain, pas une photocopieuse.
Mais pourtant, vous vous représentez dans le livre.
Moi?
Vous êtes l'homme de cette correspondance. Pourquoi les lettres de l'homme seraient-elles signées Abel Snokor?
Parce que c'est moi qui les ai écrites.
Mais les autres, signées Eva Larmor?
Parce que je les ai écrites aussi et que la femme que j'étais en les écrivant s'appelait Eva Larmor.
Mais vous voulez dire que cette Eva Larmor n'existe pas?
Non.
Et qu'elle n'est inspirée par personne?
Pas à ma connaissance.
Pas inspirée par une femme ou des femmes que vous auriez aimées?
Qu'est-ce que cela peut vous faire? Ce qu'il y a de beau dans un mystère, c'est le secret qu'il contient et non la vérité qu'il cache. Quand vous allez au restaurant, rentrez-vous par la cuisine? Et fouillez-vous les poubelles en sortant?
Je me disais bêtement, peut-être, qu'il y a des détails qui ne s'inventent pas.
Bêtement est le terme exact. Je voudrais bien savoir ce qu'est un détail qui ne s'invente pas. Est-ce que le talent de romancier n'est pas justement d'inventer des détails qui ne s'inventent pas, qui ont l'air vrais? Quand une page sonne authentiquement, elle ne le doit pas à la vie, mais au talent de son auteur. La littérature ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente, elle la provoque, elle la dépasse, monsieur Larsen.
Larsen, Eric Larsen. Vous vous rétractez dès que je pose une question personnelle.
N'importe quel microcéphale lobotomisé me poserait la même question que vous. Quel rapport entre ce que vous écrivez et ce que vous vivez? À force de consigner les événements dans vos folioles graisseuses, à force d'étaler votre syntaxe d'anémique, à force de copier, recopier, rapporter, reproduire, eh ben vous êtes devenus des infirmes de la création et vous croyez que toute personne qui prend la plume agit comme vous. Je crée, moi, monsieur. Je ne rapporte pas. Est-ce que vous aurez demandé à Homer s'il avait vécu sur l'Olympe au milieu des dieux?
Mais vous vous prenez pour Homer?
Non, mais je vous prends pour un journaliste, c'est-à-dire tout ce que je ne supporte pas.
Ben, très bien, je suis désolé. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je n'ai rien à faire ici. Je vous demande pardon. Du dérangement.
L'interview se transforme vite en duel verbal. Snorko défend une conception spiritualité et distante de l'amour. Il a choisi la séparation des corps pour préserver la pureté de sa passion épistolaire. Tandis que Larsen oppose une vision pratique et dévouée de l'amour quotidien, fondée sur la proximité et le soin. Les deux personnages radicalisent leur position et se provoquent, multipliant les reproches et les accusations. Voici un deuxième extrait entre Larsen et Snorko, Philippe et Bernard.
J'aimerais avoir des nouvelles de Novrovsnik. Parlez-moi de Novrovsnik.
Vous connaissez?
Oui, non. Disons que je n'y suis jamais allé, mais comment en parler? Pourquoi cette question?
Votre livre, dans l'amour inavoué, les descriptions que vous faites de la ville où habite cette femme, la femme aimée, eh bien, j'avais l'impression que c'était Novrovsnik.
Ah oui?
Oui. Vous appelez ce village autrement, mais quand Eva Larmor évoque la distribution des rues en spirale, lorsqu'elle indique l'église de fer et de rondins bleus, elle écrit Novrovsnik.
Coïncidence.
Et lorsqu'elle s'attarde sur la fontaine du XVIIe siècle qui retrace la conquête du Grand Pôle par le roi Gustave, la seule fontaine figurative du XVIIe qui se trouve justement à Novrovsnik. Incroyable, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui ne connaît pas Novrovsnik.
Oui, nous avons parfois de ces visions. Mais alors, j'imagine que vous n'êtes pas le seul habitant de Novrovsnik à vous être rendu compte de cette proximité.
Sans doute. Mais vous savez, dans une si petite ville, j'ai peur que vous n'ayez peu de lecteurs.
Ah, vraiment? Vous n'avez parlé de mon livre avec personne, là-bas?
Non, pas que je sache, mais... Ah si, il y a quelqu'un qui vous lit. Qui vous aime beaucoup, hein, qui vous vénère même. Ah oui. Comment n'y avais-je pas pensé?
Oui, dites.
Oui, le pasteur, oui. Le pasteur est fou de vous, je vous assure. Et c'est un homme difficile, d'une culture remarquable.
Mais il me semble pourtant que... Enfin, je crois me souvenir... J'ai reçu une ou deux lettres de Novrovsnik dans mon nombreux courrier, les lettres d'une femme. Une femme qui était professeure de lettres dans votre village. Attendez que je me souvienne de son nom.
Une femme professeure de lettres?
Oui.
Une belle femme?
Oui, très belle femme. Enfin, je n'en sais rien, par courrier, n'est-ce pas? Mais elle écrivait avec l'assurance tranquille de ces femmes à qui les hommes ne refusent rien. Comment s'appelle-t-elle déjà? Hélène?
Hélène Metternach?
C'est bien, c'est cela, Hélène Metternach. Vous connaissez?
Naturellement, Nombroski est si petit que.
Comment va-t-elle? Je n'ai plus de ses nouvelles.
Vous n'allez pas me dire que vous m'avez reçu uniquement pour avoir des nouvelles d'Hélène et Tersnack.
Non, 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 bien sûr. Comme il est drôle. Allons,
Oh,
mais puisque nous en parlons, vous ne vous êtes jamais entretenu de moi avec elle?
non, jamais, vraiment jamais. Ben, nous n'avons jamais parlé de vous ou de vos livres d'ailleurs. Hein.
C'est vrai. Après tout, pourquoi le ferait-elle?
Ben oui, pourquoi? Vous dédiez votre livre à HM, c'est Hélène Metternach.
Quelle drôle d'idée.
Oh, vous riez trop, vous riez trop.
Croyez-vous que je dédierais un livre à une admiratrice professeure de lettres au fin fond d'un trou gelé, simplement parce qu'elle m'a écrit 2 ou 3 fois pour me dire qu'elle aimait mes livres? À ce moment-là, je devrais dédier 20 romans par jour. C'est en moyenne ce que je reçois comme lettres.
Vous expliquez trop. HM, c'est donc Hélène Mettermarche.
Écoutez, pour vous tranquilliser, je vais vous dire qui est HM. C'est Henri Metzger, mon premier éditeur. Je lui dois toute ma carrière, mais comme il est mort et que j'ai changé de maison, par respect pour mon nouvel éditeur, je me suis contenté des initiales.
Ah bon?
Je vous avais prévenu, la vérité déçoit toujours.
Eh bien, monsieur Snorko, je ne vais pas plus abuser de votre temps. Je vous remercie 1000 fois pour cet entretien exclusif. Je vais rentrer le taper et l'envoyer à ma rédaction.
Mais quoi? Nous n'avons pas fini.
Bon, je vous ai parlé de Novosny. Vous m'avez gavé de sentences définitives. Tout est pour le mieux.
Comment? Je n'ai rien dit.
Ben, vous savez, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Les pages culturelles me sont comptées dans le journal, et même pour vous, on ne m'accordera pas plus d'une demi-page le mercredi. J'ai un biscuit bien suffisant.
Mais l'échange n'est pas terminé pour autant. Et voici un troisième extrait où des révélations vont se faire.
L'épée de Tristan. Vous connaissez l'histoire de Tristan et Iseult. C'est aussi une légende ici. Les plus grands amants du monde finissent leur séjour terrestre sur un même lit, couchés côte à côte pour l'éternité avec, entre eux, l'épée de Tristan. Iseult n'a pas pu rester heureuse que grâce à l'épée qui la sépare de Tristan.
Vous n'aimez pas l'amour, mais le mal d'amour.
Sottise!
Vous avez besoin d'Hélène pour brûler, vous consumer, vous lamenter, pour mourir, pas pour vivre.
J'ai un féroce appétit de mourir.
Mais de toute façon, vous ne savez même pas qui elle est.
Mais qu'est-ce que cela peut vous faire?
Ce n'est pas Hélène que vous aimez, mais l'intensité de votre souffrance, la bizarrerie de votre histoire, les affres d'une séparation contre nature. Vous n'avez pas besoin de la présence d'Hélène, mais de son absence. Pas Hélène telle qu'elle est, mais Hélène telle qu'elle vous manque. Oui, vous avez bien fait de ne pas révéler au public que votre livre venait de votre vie. On aurait découvert qu'Abel Snorko, le grand Abel Snorko, n'était qu'un simple adolescent qui se languit en attendant le facteur depuis 15 ans.
Calmez-vous, cette scène est totalement hors de propos.
Vous n'auriez jamais dû quitter cette femme. Vous l'avez détruite en l'éloignant.
Vous avez vraiment les semelles enfoncées dans la boue. Tout a été fort entre nous, la caresse comme la séparation. Je n'ai rien sacrifié, nous étions d'accord. Sinon, d'après vous, pourquoi aurait-elle accepté?
J'imagine que, comme tous les passionnés, elle avait une prédisposition intime pour le malheur. Et puis, elle vous aimait. Elle acceptait pour vous, rien que pour vous.
Allons.
Ah, vous étiez dû à penser au grand Abel Norco, elle et vous.
Mais dites-moi, sa cause vous anime décidément beaucoup. Vous prenez facilement feu pour défendre votre concitoyenne. Vous connaissez bien Hélène Metternach?
Très bien, oui. C'est ma femme.
Pardon?
Hélène Mettermarck est devenue Hélène Larsen. Oui, Larsen, Larsen, vous savez, ce nom qui est à lui seul comble les vides de la création. Vous boirez quelque chose? Un godet, juste un petit godet. Rien de tel qu'un petit godet glacé, hein, pour déglutir la glotte.
Vous mentez. Vous venez d'inventer ce mariage pour me mettre hors de moi. Prouvez-le. Prouvez-le que vous êtes bien son mari.
Voulez-vous la photographie de notre mariage?
Je ne l'avais plus jamais vue depuis que nous étions séparés. Comme elle est jolie. Quel grotesque. C'est vous, là, déguisé en garçon d'honneur? Et votre cravate, c'est une greffe? Il faut payer pour mettre ces choses, ou bien c'est vous qu'on paye? Et qu'est-ce que c'est, cette soucoupe volante au-dessus de la tête d'Hélène? Un chapeau? Non, c'est une farce. Ce sont les photos d'un bal costumé, une soirée de réveillon. Vous avez voulu jouer au plus crétin? Non, vous moquez. Je ne doute pas que vous connaissiez Hélène, mais Hélène vit seule depuis 15 ans. Hélène m'écrit tous les jours depuis 15 ans. Hélène n'est pas mariée. Très amusant, le coup de la photographie.
Peut-être que cet acte d'état civil vous convaincra-t-il plus, là? Le 7 avril, il y a 12 ans.
12 ans?
Zdarko est abasourdi. Des confidences ont surgi sur la nature réelle de la correspondance et sur l'identité de la femme. On apprend que la mystérieuse correspondante, H, est liée de façon intime aux deux hommes. Larsen n'est pas un simple journaliste impartial, il est directement concerné. Selon les versions et les mises en scène, il finit par avouer son lien. Il est le mari de la femme et a entretenu et même rédigé la correspondance à certains moments. Certes, un geste qui renverse les rapports de force et révèle que tous deux ont aimé la même femme sous des angles différents. La plupart des scènes suivantes alternent récits et retours sur la vie avec Hélène. Snorko expose sa stratégie. Préserver l'amour par la distance et les cris. Larsen va raconter la vie de couple, la maladie, l'accompagnement jusqu'à la mort et son propre choix d'accepter l'autre amour d'Hélène. Ces témoignages opposés font apparaître de façon irréconciliable d'aimer. La passion idéalisée de l'amour patient, mais aussi leur manque et leur lâcheté. Les masques tombent, la douleur et la jalousie se mêlent. Voici un quatrième et dernier extrait.
Arrêtez! Je ne lui dirai pas.
Et pourquoi?
Parce qu'elle est morte. Hélène est morte, oui. L'agonie a duré 3 mois. 3 mois, c'est long pour mourir, mais c'est court pour vivre. Quand les médecins eurent fait leur diagnostic, elle a eu un mouvement de révolte. Elle s'est mise en colère, elle était décidée à se battre, mais la colère n'était que l'écume de son caractère. Le lendemain, elle avait consenti. Elle ne s'est pas levée, elle est restée allongée dans le lit, elle me regardait comme un enfant puni. « Je ne veux pas aller à l'hôpital, je veux qu'on me soigne ici. » Quand elle disait « soigner », c'était un autre mot qu'elle pensait, mais trop dur pour ses lèvres, un mot qu'elle ne prononcerait pas. Les médecins ont accepté. Je suis devenu à moi tout seul un hôpital et ses aides-soignants. Je ne vivais plus que dans le souci d'Hélène, lui donner ses médicaments, la faire manger, m'assurer qu'elle dormait, lui raconter des histoires, tenter de la faire rire. Je savais que tout cela ne servait à rien, que c'était lutter contre inéluctable, mais c'était seulement comme cela, désormais, que je pouvais encore lui montrer que je l'aimais. Elle recevait cette attention inquiète avec naturel, elle semblait à peine s'en rendre compte. Je vais vous dire, ce qu'il y a de plus terrible dans une agonie, monsieur Snorko, c'est qu'on perd l'être qu'on aime bien avant qu'il ne meure. On le voit se rapetisser dans les draps, s'alourdir d'un poids d'angoisse tué, se replier dans un secret inaccessible, on voit ses yeux errer dans les monts dont il ne dit plus rien. Hélène était toujours là, et cependant Hélène était ailleurs. La douleur pour moi, monsieur Snorko, c'est que parfois, tous mes soins, cette forme désespérée d'amour, ne se semblaient plus touchés que de l'indifférence. Les derniers jours, on ne parle même plus. Elle était devenue si légère qu'on n'avait pas l'impression qu'elle était couchée, mais qu'elle était seulement posée à la surface du lit, sans peser, comme un oiseau, un pauvre oiseau, sans elle. Je mettais 2 heures à la nourrir d'une pomme, j'en venais à souhaiter qu'elle meure pour de bon, et j'avais honte de mes pensées. Elle était entre la vie et la mort, et moi, entre l'amour et la haine. L'agonie déforme tout le monde, monsieur Snorko. Elle est morte le jour du printemps. Les neiges fondaient depuis 2 semaines, changeant les routes de boue. Notre rivière débordée, la circulation stagnée à Novosnik, et puis ce matin-là. Dans une aube qui, pour la première fois, montrait la steppe verte, jaunissante, les brins d'herbe qui appelaient le soleil, s'est endormi, définitivement. Ce matin-là, il y avait les alouettes dans le ciel.
Merci. Merci d'avoir été là, près d'elle. J'ai honte. Je n'ai jamais rien fait pour elle.
Vous vous trompez.
Pendant ce temps-là, je ne pensais qu'à moi. Je tempêtais contre elle, peut-être. Je songeais à mon livre. Inutile.
Non, non, non. Votre absence lui faisait du bien. Pour vous, pendant ces 3 mois d'agonie, elle était toujours Hélène, attentive, intelligente, belle, ronde et ferme. Mais pour vous, elle existait toujours telle que vous la désiriez, telle qu'elle se désirait. Pour vous, grâce à la distance, elle demeurait vivante, intacte, enfermée. Dans votre songe et le sien, un rêve d'elle-même qui lui permettait de nier la dégradation chaque jour plus affolante. En ignorant tout, vous l'avez aussi rendue heureuse. Maintenant, je sais que dans ses rêves et son silence, elle partait ici, vers vous.
Il fallait m'appeler.
Le lendemain de l'enterrement, j'ai brûlé le matelas qui portait encore en creux la trace de son corps. J'ai jeté ses vêtements, plus rien ne remplirait jamais. J'avais l'impression que ce n'était pas un meuble, mais un chien qui me demandait d'un regard implorant où était sa maîtresse. Puis au début de l'après-midi, j'ai pris la clé de son secrétaire et j'ai découvert les lettres, vos lettres et le brouillon des siennes.
J'imagine que vous avez souffert encore plus.
Non, j'ai été heureux d'apprendre qu'elle avait éprouvé plus de bonheur que je ne croyais, plus de joie que celle que je lui avais donnée. J'étais soulagé que la vie n'ait pas été trop avare avec elle. Ce qui m'a fait le plus souffrir, ce sont toutes les lettres qu'elle ne vous avait pas envoyées. Celle où elle disait qu'il fallait vous taire, à quel point vous lui manquiez, celle où elle hurlait d'amour et d'abandon, celle où elle avouait qu'elle ne pourrait plus jamais revivre, celle où je comprenais que vous y étiez le seul homme de sa vie. C'était des lettres pour elle, pas pour vous, et encore moins pour moi. Personne n'était destiné à entendre ce cri.
Je voudrais aller à Novrovsnik avec vous. Il portait des fleurs.
Venez.
Je pars avec vous.
Puis vient un moment clé où Larsen, le mari, avoue la supercherie. Il dit qu'il a écrit à la place de sa femme, qu'il a nourri l'illusion. Znorko, qui vivait de cette correspondance comme d'un espace sacré, est alors dévasté. Sa passion unique s'effondre et son orgueil se brise. La pièce explore ici la trahison, la nécessité de mensonge pour donner de la vie aux morts. Et le prix de l'art quand il sacrifie les êtres réels. La fin de la pièce laisse le spectateur avec des interrogations, soulignant la complexité des émotions humaines et la difficulté de saisir pleinement les motivations des autres. Elle ne donne pas de résolution morale simple. Les deux hommes restent liés par la même absence et la correspondance qui attendent compter. L'œuvre s'achève sur une réplique finale très ouverte. Zarco dit « Je vous écrirai », dans la formulation la plus souvent citée, qui laisse planer l'idée de la relation par des lettres, le mensonge ou le désir, pourrait continuer sous une autre forme. La pièce se clôt donc sur une ambiguïté, ni réconciliation nette, ni rupture totale, mais une interrogation persistante sur ce qu'est vraiment aimé. Variation énigmatique est ainsi une œuvre riche et profonde, où chaque personnage se débat avec ses propres démons et aspirations. Merci Philippe, merci Bernard, à la semaine prochaine, pour d'autres lectures extraites d'une autre œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Visiteur. Notre émission est maintenant terminée, voici la citation du jour. La seule chose que nous apprend la mort est qu'il est urgent d'aimer. Elle est bien sûr d'Éric Emmanuel Schmitt, dans Variations énigmatiques. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radioaltitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union FNCTA http://fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'oubliez pas de m'appeler au 05 61 42 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mise en scène, éclairé, sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.